France Musique.
Virá num riso de criança ou numa lágrima de dor, virá talvez numa esperança ou num sonho que passou. Inesperado peregrino, sagrada é a sua missão de abençoar a nossa voz e iluminar o nosso destino com as chamas da inspiração.
France Musique. Planète Écora. Aliette Delalleux.
Certaines mélodies racontent des histoires sans mots. Au Brésil, en plein cœur du 19e siècle, musiciens et musiciennes inventent une musique nouvelle. Nouvelle parce qu'on n'a pas encore entendu ce style. Mais chaque note, chaque rythme, chaque intention puise dans des cultures qui existent, des cultures différentes. Là, on entend des musiques à danser venues d'Europe, ici des rythmes venus d'Afrique. C'est la naissance du choro. Son nom pourrait venir du portugais et signifier pleurs, lamentation. Pourtant, cette musique vibre de son joyeux, entraînant et dansant. Le choro a été l'une des sources d'inspiration de la samba et de la bossa nova et continue aujourd'hui de résonner dans les oreilles des artistes. Certaines mélodies racontent des histoires sans mots. Le choro en fait partie. Bonjour et bienvenue dans Planète Okora.
Aqui tá no terreiro pelo adi, é fazer inveja pra gente que não tem mulher.
Aqui tá no terreiro pelo adi, é fazer inveja pra gente que não tem mulher.
No jacutá de preto velho, há uma festa de aô.
No jacutá de preto velho, há uma festa de aô.
Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá, é mucamba de Oxóssia caçador, ora viva nananã namborocô.
Oi, mucamba de Oxóssia caçador, ora viva nananã namborocô.
Iô, iô,
iô, iô.
No terreiro de preto velho, iaiá. E ora vamos saravá.
Aqui, meu pai.
Xangô.
No terreiro de preto velho, iaiá. Vamos saravá. Aqui, meu pai. Xangô.
Aqui quando o terreiro tem no ar, é faz inveja pra gente que não tem mulher.
Aqui quando o terreiro tem no ar, é faz inveja pra gente que não tem mulher.
No jacutá de preto velho, há uma festa de aô.
No jacutá de preto velho, há uma festa de
aô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá, mucamba de Oxóssia caçador, ora viva nananã namborocô.
Oi, mucamba de Oxóssia caçador, ora viva nananã namborocô.
Iô, iô,
iô, iô.
No terreno de preto velho, iaiá. Senhora, vamos saravá.
Aqui, meu pai.
Xangô.
No terreiro de preto velho, iaiá. Vamos saravá. Aqui, meu pai. Xangô.
Bonjour Guillaume Latil.
Bonjour Aliette.
Bonjour Mathéus Donato.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans cette émission. Alors je pense que cette ouverture d'émission ne vous laisse pas indifférent puisque ce titre vous l'avez joué, interprété, réarrangé, repris. C'est un titre du flûtiste brésilien Pixinguinha. Qui était ce flûtiste et compositeur, Mathéus ?
Je pense que c'était le créateur de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le langage du choro. C'est vraiment le grand maître, le grand arrangeur de l'époque. C'est lui qui faisait tout et c'est un peu grâce à lui qui, je sais pas, que j'ai appris tout ce que j'ai appris de musique traditionnelle brésilienne. Donc c'est vraiment un honneur d'enregistrer ça en France avec violoncelle et tout ça, c'est génial.
Vous formez tous les deux un duo, donc violoncelle avec Guillaume au violoncelle et Cavaquinho. Votre rencontre, elle est un peu rigolote à raconter puisque vous vous êtes rencontrés dans un immeuble. Généralement, quand on entend des instruments, ça agace un peu. Vous, au contraire, vous avez tendu l'un et l'autre l'oreille et vous êtes rencontrés. Comment ça s'est passé, Guillaume, cette rencontre ?
Eh bien, du coup, je l'ai entendu tout simplement en montant les escaliers pour aller dans mon appart. Et je suis resté un peu bloqué devant ma porte d'entrée. Et après, j'ai attendu de le croiser pour lui dire « Waouh, hermano, j'ai écouté ce que t'as fait, c'est incroyable !» Et j'ai lui proposé de jouer ensemble à des morceaux de choro un peu que je connaissais pour qu'on joue, on se connaissait pas et tout, donc on a joué comme ça la première fois.
Et ça a donné une belle amitié, et amitié professionnelle aussi, on va l'écouter, vous êtes venus avec vos instruments. Comme toujours dans cette émission, les invités participent à la programmation musicale. On va commencer par écouter votre choix, Guillaume Latil.
La luz, la luz.
Perdón de Yoruba Andabo, choix musical d'un de nos invités aujourd'hui. Guillaume Latil, cette musique nous emmène à Cuba. Pourquoi ce choix? Comment vous avez découvert cette chanson?
Eh bien, pourquoi ce choix? Bon, en fait, j'ai hésité avec, à choisir un morceau qui serait plus directement lié à mes influences, à nos influences et à mes influences de jeu, de violoncelle, qui aurait pu être de musique française, de musique classique ou même de musique de jazz manouche. C'est une musique qui fait vraiment partie de mon langage de violoncelle, duquel je viens. Le jazz Django Reinhardt, la mélodie, ou plein d'autres choses qui étaient directement connectées. Et en fait, ce choix-là, c'est le choix plus d'un choix personnel par rapport à la manière dont je me place par rapport aux musiques traditionnelles. À savoir, par exemple, j'ai découvert ce morceau avec mon amie très proche qui est Natasha Rogers, qui est une grande musicienne qui justement joue la rumba, qui joue aussi les tambours bata et qui le mélange dans sa musique, qui est incroyable. Et quand j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années, j'étais évidemment frappé par l'énergie de cette musique, l'intensité, parce que c'est parlant en fait, sans code. Mais je comprenais pas du tout le fonctionnement et j'avais même l'impression que le tambour principal qui s'appelle le quinto, j'avais l'impression qu'il pouvait faire n'importe quoi, qu'il était extrêmement libre. Je me doutais que c'était pas le cas, mais et du coup je le raconte à Natacha et puis elle commence à m'expliquer. Puis on en parle et puis elle me montre des choses sur plusieurs mois, plusieurs années. Et en fait, j'ai jamais voulu étudier cette musique, mais j'ai juste voulu la comprendre. Et à chaque petite clé de compréhension, ça permettait d'accéder à une beauté supplémentaire. Et du coup, ce choix-là, ça me permet juste de parler de l'idée des chemins d'accès vers la beauté. Que la beauté, c'est quelque chose qui n'est pas universel, qui est transmissible, et que finalement, sentir, comprendre, aimer des choses qu'on ne connaît pas, ça s'éduque, ça se comprend.
Et que comprendre ouvre à chaque fois des portes, comme un peu comme des couches quoi, de la musique.
Exactement, des portes de beauté, donc des portes de joie, et que finalement c'est un message trop beau, je trouve, à notre époque, et selon chaque milieu social dans lequel on est, c'est qu'en fait il y a de la joie qui est accessible juste par la volonté de comprendre des choses qu'on ne connaît pas en musique ou dans plein de choses, mais dans la musique c'est... En tout cas, moi, ça me parle énormément parce que c'est flagrant de à quel point une chose qu'on ne connaît pas ou qu'on croit ne pas aimer, en fait, a des subtilités folles, quoi.
Et j'allais vous demander un peu dans ce sens, la rencontre et le fait de jouer, de travailler avec Matheus Donato, qu'est-ce que ça vous a apporté de la compréhension et de l'appréhension de la musique brésilienne que vous connaissiez un petit peu, parce que vous parliez tout à l'heure du choro.
Précisément sur la musique brésilienne, il faudrait que je fasse l'inventaire des petits détails dont on a parlé. Mais est-ce qu'il y en a un qui me viendrait comme ça à l'esprit? Je pense qu'il y a des choses de sensation déjà, énormément de choses qui sont de l'ordre corporel, du ressenti du temps, du ressenti du débit, il m'a fallu du temps pour m'adapter à certains ressentis, certaines manières de jouer, du temps ou du travail même, pour ressentir. Et après, dans les discussions, je pense que chaque discussion avec Matheus, de chaque discussion émerge un petit détail que j'essaie d'attraper, de mettre à ma petite collection de choses que j'adore.
À votre corde, pour ne pas faire de jeu de mots. Matheus, vous êtes venu avec votre instrument, le cavaquinho. Avant de vous entendre jouer en duo avec Guillaume, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement ce que c'est cet instrument dans la culture brésilienne et portugaise?
Oui, le cavaquinho, il est un instrument traditionnel de Portugal. Il vient de là-bas, de l'île de Madère, je pense. Et lui, là-bas, il est connu aussi comme braguinha. Et c'est intéressant parce que, à mon avis, c'est un instrument qui a choisi d'être brésilien aussi. Et qui, au Brésil, il a pris tellement de petits détails et tellement de différences par rapport au cavaquinho qui existe encore aujourd'hui à Portugal, dans la culture de fado et pas que. Et moi, je suis un fasciné du cavaquinho brésilien, mais c'est rigolo parce que mon cavaquinho, il est portugais. Il est fait au Porto. Donc, c'est un peu le mélange entre ces natures, je peux dire ça, cette nature portugaise qui
y a. Les origines, un peu.
Oui, et en même temps, le fait qu'il soit avec des cordes d'acier, qu'il ait joué avec un médiator.
Vous avez rajouté deux cordes aussi, je crois.
Oui, pas que moi en fait, mais oui, c'est, je fais partie de cette vague qui a eu cette idée-là d'ajouter des cordes à cet instrument qui n'avait pas besoin. Mais oui, ça pose un peu de problèmes, mais ça donne aussi des solutions intéressantes. Et c'est bien de... Je lis déjà avec une autre réponse que tu n'avais pas posé la question, mais c'est rigolo parce que Guillaume, il m'a donné plein d'idées. Comme on a à peu près... on a trois cordes en commun. Il m'a donné plein d'idées, plein de voicing, plein de défis à trouver un chemin parmi ses arrangements et parmi mes arrangements qui aussi ont fait ensemble. J'ai pu trouver un peu mon chemin sur ce cavaquinho nouveau que je découvre aussi avec Guillaume. Donc ça, c'est intéressant de cette duo.
Et c'est ce qu'on va écouter tout de suite, puisque vous allez prendre place dans le studio et nous interpréter un chamamé dédié à l'amitié, composition de vous, Matheus Donato. Je vous laisse vous installer tous les deux. Thank you. Klaus Meus Amigos, composition de Matheus Donato que l'on vient d'écouter en duo avec le violoncelliste Guillaume Latil, nos deux invités aujourd'hui, qui viennent présenter leur album Hémisphère.
France Musique, Planète Okora, Aliette Delalleux.
Didier Lecoud a été un de vos professeurs à Guillaume Latil. Qu'est-ce qu'il vous aurait enseigné que vous gardez encore aujourd'hui ?
Peut-être le rapport directement au corps sans passer par aucun autre chemin qui, analytique ou de compréhension justement de quoi que ce soit. Sa manière d'enseigner et sa manière, je crois, dont il ressentait, il pensait la musique, il a joué en tout cas, c'était vraiment 100% de ressenti, aussi bien rythmique que harmonique. Et c'est vrai que c'est ce que je retiens de lui, dans tous les domaines, c'est ce rapport où on voudrait travailler quelque chose avec lui. Il y avait pas mal d'amis autour de moi qui pouvaient être frustrés parfois, qui me disaient qu'il y avait plein de matières dans son école différentes sur les musiques et tout. Et Didier, la seule chose qu'il importait, c'était le rythme avant tout, en fait. Et c'est vrai qu'on arrivait des fois avec des matériaux, des choses qu'on avait travaillées, puis il arrêtait tout de suite au bout d'une mesure et disait « ça soigne pas là !» Et il fait « non, mais en fait j'ai travaillé ça, mais on s'en fout en fait, si c'est pas dedans rythmiquement, c'est pas... » Et c'était pareil harmoniquement. Une fois, je lui avais posé une question sur une gamme particulière, un mode qui s'appelle le mode superlocrien, le mode altéré, c'est un mode majeur dans le jazz. Et je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on travaille ça. Il me dit, mais je connais pas ça. J'ai fait, bah, si, moi je le connais à travers toi en fait, parce que je le connais, parce que j'ai relevé des solos où tu joues ça. Il me dit, ah oui, non, mais je le joue, mais je sais pas comment ça s'appelle ça. Et pour moi, ça reflète vraiment cette espèce de liberté et de connexion directement au corps, quoi.
Vous avez, avec Mathéus, sorti un album tous les deux. On entend et on écoute plein d'influences. Vous avez puisé dans plein de cultures. Il y a un morceau dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est la prière en Bambara. D'où vous est venue cette inspiration? Et puis ensuite, on va avoir le plaisir de l'écouter. Mais d'où vient cette idée d'écrire et de composer autour du Bambara? Guillaume.
Eh bien, alors, en fait, cette idée, c'est un peu particulier, justement, puisque c'est une mélodie qui m'est venue. Dans un moment de création, j'étais avec mon amie qui a fait la pochette, justement, Jeanne Frankel, qui était en train de fabriquer un mobile d'oiseau, pour la petite histoire, à côté. Et puis moi, j'étais en train de jouer du violoncelle. Et puis j'ai cette mélodie qui m'est venue et qui était une espèce de réminiscence un peu de musique mandingue que j'écoute, que j'ai toujours beaucoup écouté, mais que je regarde de très loin et dont je ne suis pas spécialiste. Et ça m'a fait un peu l'effet d'une mélodie qui ressemble un peu comme les fables, vous savez, des voyageurs ou des marins qui, des fois, quand ils rentrent, ils racontent des histoires et on ne sait jamais trop la part du vrai, la part du faux. L'histoire est hyper belle et c'est tout ce qui importe. Et du coup, cette mélodie, elle m'est venue un peu comme ça et je l'ai accueillie comme une espèce de fable mandingue qui avait un petit air de supplique. Alors, je n'ai pas appelé fable, mais prière. Mais...
Super, merci beaucoup, Guillaume. Mathéo, je vous laisse tous les deux vous installer et on va écouter cette prière en bambara. Thank you. Prière en bambara avec le duo Guillaume Latil et Matheus Donato. On continue notre voyage avec un peu de Brésil. La mandoline de Jacob do Bandolim, c'est votre choix musical, Matheus Donato. Pourquoi ce choix ?
C'est le musicien parfait. La musique parfaite, le régional parfait, tout est bon là.
Et la mandoline, ça a été d'ailleurs un peu votre arrivée ensuite pour aller vers le cavaquinho ou pas du tout ?
Non, en fait, je ne suis pas passé exactement pour la mandoline, mais je suis passé par Hamilton d'Irlanda. C'est un mandoliniste que vraiment il m'a beaucoup influencé, il m'a beaucoup aidé au tout début quand j'ai commencé, soit avec des conseils, soit avec des rencontres, soit juste avec sa production musicale, que c'est incroyable, que mais trop je le tiens au cœur, et c'est vraiment quelqu'un qui m'influence beaucoup.
Et pourquoi alors vous avez pas choisi la mandoline et vous avez choisi le cavaquinho?
Bon, ça c'est intéressant. En fait, c'était pas un choix. Je trouve que j'étais un peu choisi par le cavaquinho. C'était un peu au hasard. Il avait un copain, il avait un cavaquinho. Moi, j'ai joué la guitare avant. Et moi, j'ai vu le cavaquinho et j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est cette idée-là, c'est cet instrument qui me fascine. Et j'ai parti tout de suite acheter un ukulélé. C'était mon première erreur. et après ça, j'ai lâché le ukulélé, c'était une mauvaise idée. Et rien contre le ukulélé, mais c'était pas mon kiff. Et j'ai trouvé le cavaquinho, j'ai trouvé un peu la. En fait, c'était ma rencontre avec l'idée de jouer avec quelqu'un. Parce que la guitare classique, elle est assez solitaire, moi je trouve. Au moins, c'était l'approche du conservatoire que j'avais à l'époque. Et c'est intéressant parce que j'ai trouvé le cavaquinho, j'ai trouvé aussi la joie de jouer avec quelqu'un, de faire des amis à travers de la musique. Et je sais pas, ça a changé ma vie, ça a changé tout pour moi, et ça m'a fait découvrir plein de choses au Brésil, en France et partout.
Matheus, vous avez ouvert cette émission avec un texte récité en brésilien. C'était quoi ce texte ?
Ça, c'est une samba de Noca da Portela et Toninho Nascimento, chantée par Paulinho da Viola. Et ça parle un peu de pèlerinage de la musique. Je trouve que c'est... Je sais pas, je me sens un peu ce pèlerin quand je passe un peu pour ses influences, quand je connais des musiciens comme Guillaume qui fait des recherches incroyables, qui me met à jouer des choses de musique de Anatolie, des choses de musique africaine, des ornements de musique turque, ce genre de choses que je n'avais jamais écoutées. Je me sens un peu ces pèlerins inattendus, comme il dit, qui a comme mission de bénir notre chemin avec les flammes de l'inspiration.
C'est beau. On va vous écouter jouer un dernier titre en duo avec Guillaume. Vous allez jouer, interpréter ici dans le studio de France Musique, Essi, composition de Guillaume Latil. Je vous laisse vous installer pour ce dernier titre. Ici, par le duo Guillaume Latil et Matheus Donato, un petit mot sur ce que vous venez d'interpréter. Qu'est-ce que raconte ce titre qui s'appelle « Essi, Guillaume »
Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, justement, c'est « Essi, trois points de suspension », donc c'est à chacun de se l'imaginer. Et en tout cas, ce morceau, il vient d'un peu d'une envie de toile neutre. La toile neutre, c'est un peu la manière dont... Je voyais cet album et cette musique-là. Si on voyait un tableau avec un magnifique tableau d'un endroit traditionnel de tel pays, j'imaginais que la musique, ça soit pas le tableau, ça soit la toile en fait, sur laquelle on peut accueillir justement le dessin de l'église traditionnelle ou du temple ou je sais pas. Et c'est quand j'entendais Matheus, j'imaginais le son incroyable, toute cette tradition-là, mais jouée sur une toile un peu neutre, et ce morceau-là, c'est le bout de la démarche un peu, c'était vraiment imaginer un état presque méditatif, où il n'y a pas de mélodie, où il n'y a pas de... Les deux musiciens jouent exactement, ont le même rôle, ont la même chose, et ce morceau, l'idée, c'était vraiment qu'il n'ait aucune volonté d'aller quelque part, aucune volonté de s'améliorer. Ces quatre harmonies que j'ai écrites en un geste, je ne les ai pas retouchées, j'ai rien fait, j'ai appelé ça « Essi, trois points de suspension ». Et voilà.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission. Partagez votre musique et je rappelle donc ce disque Hémisphère sorti chez Matrice Prod. Et puis une petite date, le 5 novembre, vous serez en concert à Paris au Café de la Danse. Donc auditeurs, auditrices qui nous écoutez, foncez découvrir ce magnifique duo. On va quitter le Brésil et toutes les autres influences pour aller poser nos valises à Strasbourg où avait lieu le festival Musica dédié aux musiques contemporaines. Et cette année, plusieurs concerts étaient réunis sous l'intitulé Les Nouveaux Folklores, l'occasion d'aller y faire un tour.
Okora, le reportage.
Hello, Brisha. I'm Aliette. I'm going to do the interview with
okay,
you.
Okay, yes.
But problem. When you're ready.
Maybe like 5 minutes.
Yeah, sure, yeah. Of course, no problem.
Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que je peux dire?
Eh bien, je vais dire que je suis avec Stéphane Roth, directeur de Musica. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes?
On est à Strasbourg, sur le parvis de l'église Saint-Paul, temple protestant, où Musica a pris ses quartiers depuis 2019, avec le soutien de la paroisse. Et c'est une église dans laquelle on fait pas mal de concerts durant le festival, et surtout des concerts expérience. On peut aménager l'espace, retirer les bancs, voilà, le public peut s'allonger, et c'est devenu un peu temple de la musique répétitive, minimale, mais aussi folk, néo-folk ce soir.
Depuis 1982, le Festival Musica propose des concerts, rencontres et performances autour de la création musicale. Cette année, l'événement proposait une programmation sur quelques jours autour des nouveaux folklores. Well, we can just, I don't know, if you're cold, we can go in the car, but if you're okay, we can just go in the march.
Yeah, we can.
It's maybe nicer to have.
Thank you so much.
Strasbourg's environment.
Hello, my name is Brice. I come from the Isle of Skye in Scotland. It's such a pleasure to be here.
Je m'appelle Bridget Humbug. Je viens de l'île de Skye en Écosse.
And I play the Scottish small pipe.
Et je joue de la petite cornemuse écossaise.
So it's a type of bagpipe, but it's
c'est de la famille des cornemuses, mais elle est jouée avec un soufflet, contrairement aux autres dans lesquels on souffle directement. Le soufflet est attaché à mon coude, qui permet de pomper l'air et de remplir le sac. Le son est assez doux, peut-être un peu moins fort que les autres cornemuses. Et on peut jouer assis, ce qui est parfois plus simple pour jouer avec d'autres instruments. J'ai beaucoup de chance de pouvoir me produire dans des festivals comme celui-ci. J'y entends des musiques très intéressantes. Je peux rencontrer des compositeurs, compositrices, souvent de musique contemporaine et des artistes. Je trouve que nous avons beaucoup en commun, notamment dans nos manières de concevoir le son. Dans la musique contemporaine, on réfléchit à créer de nouveaux sons, à utiliser les instruments de manière différente. Donc oui, il y a beaucoup de points en commun avec ce que je fais. Je travaille un peu avec l'électronique, mais surtout j'essaye vraiment d'aller au plus loin et au plus profond de l'utilisation du bourdon, des tonalités, des sonorités de l'instrument. Pour moi, je ne sais pas si ça sonne vraiment expérimental. C'est plus l'idée d'entrer dans l'instrument, de percevoir les harmonies, les sons qui existent dans la cornemuse, mais que l'on n'entend pas toujours vraiment en profondeur. Oui, c'est ce que je fais, essayer de les faire ressortir. Sur cette programmation des nouveaux folklores, qu'est-ce que tu avais en tête? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers ces esthétiques-là?
Disons qu'on observe aujourd'hui, je pense, une forme de retour du folk, comme on en a connu plusieurs au XXe siècle. Et ce qui m'intéresse dans ce qui se passe aujourd'hui, avec des nombreux groupes en France, en Europe, c'est qu'il y a une sorte de convergence aussi sur des sujets sociaux et politiques. La question du folk, pour moi, ne peut pas être détachée aujourd'hui de questions écologiques, de questions politiques. Moi, ça ne me dérange pas de tracer des équations entre cette tendance et certains de ces groupes et des mouvements sociaux tels que le Comité Invisible, Extinction Rébellion et autres. Je pense que c'est important de tenir compte de certaines formes de radicalité dans la vie sociale, comme en art et comme en musique.
Bonjour,
enchantée.
Bienvenue.
Merci d'avoir traversé la rue.
Salut.
Ce sera peut-être.
Est-ce que vous voulez boire un petit café après,
un petit baby avant de l'interview?
Un café? Tu veux?
Je m'appelle Jessica Ekoman, je suis musicienne de musique électronique et artiste sonore.
Guillaume Lacrous, musicien.
Et Yann Gourdon, également musicien et membre du collectif La Noble, comme Guillaume. Alors La Noble, c'est un collectif de musiciens, musiciennes, vidéastes aussi et graphistes. On est 13, je crois, aujourd'hui au sein de ce collectif. Et on travaille sur un champ assez large qui va des musiques traditionnelles, plutôt du Massif central et Hautes-Alpes, et qui va jusqu'aux musiques expérimentales, avec toutes les interactions qu'on peut y trouver, y faire.
La Novia présentait à Musica une création autour de l'œuvre du compositeur américain Conlon Nancarrow. Les pièces composées à l'origine pour piano mécanique ont été transposées, orchestrées pour un ensemble de cornemuses, violons, banjo et guitare électrique, le tout accompagné par un dispositif électronique pensé par la compositrice Jessica Ekoman.
Nous, on était convaincus que ça allait être impossible, donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait le faire. Aussi parce qu'avec Yann, c'est une musique qu'on côtoie depuis très longtemps et qui nous a, je pense, quand même énormément inspirés. Voilà, dans lequel on a senti des résonances. Donc on avait envie de partager ça avec, à l'ensemble du collectif, avec des gens pour qui cette musique était extrêmement éloignée de la pratique, de leurs préoccupations, de l'écoute. En plus, le fait que les pièces sont, pour la plupart des versions jouées sur piano mécanique, il y a une forme d'assaise ou d'aridité à entendre toute la folie et tous les processus. Donc c'est vrai que tout le monde n'était pas forcément convaincu par la musique, mais ce qui peut-être, on s'est rendu compte aussi, était la force du collectif, c'est qu'il y avait une confiance qui a été faite. En disant, il y a des gens qui ont dit, bon, moi je sais pas trop cette musique, mais allons-y, on vous suit parce qu'on se fait confiance et on y va.
Il y a des petites choses de musique trad qui reviennent, mais on est quand même sur de l'expérimental avec partition, ce qui n'est pas forcément dans l'habitude des instrumentistes. Qu'est-ce qui vous pousse à aller vers ce genre de projet, répertoire et d'œuvre?
Moi, ça me plaisait aussi que des gens, des musiques dites des musiques traditionnelles, de tradition orale, puissent jouer une musique qui est soi-disant écrite et qui serait plus savante parce qu'elle est écrite. Et ça me permettait aussi, je trouve, d'aborder ces questions d'écriture qu'on place, je trouve, souvent à des mauvais endroits. Ça serait savant parce qu'il y a des notes écrites. Et il y a nous, quand on fait des musiques de tradition orale, elles sont très écrites. C'est juste qu'elles sont écrites en nous, en fait. Les partitions, c'est que des promesses. C'est pas la musique. Et je trouve que c'était important aussi d'arriver à, peut-être en filigrane, que ça apparaisse. Voilà. Et c'est vrai que c'était pas évident. Quand on sait pas lire et qu'on se retrouve avec une tonne de partitions où il n'y a rien de tonal ou de modal. Et c'était intéressant de le faire aussi, et de faire entendre des motifs là-dedans. Voilà. Donc c'était important aussi, presque d'un point de vue politique pour moi.
Qu'est-ce que tu trouves chez les ensembles et la manière de créer des ensembles qui sont plutôt issus des musiques traditionnelles que peut-être on ne trouve pas ailleurs?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir assumer la notion de groupe socialement. Ça me semble important. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans la musique contemporaine, mais ça a été moins cultivé et moins valorisé. Ça veut dire au niveau de la gouvernance du projet, des décisions partagées, parfois des méthodologies pour construire des projets en incluant les points de vue de tous et toutes. Et ça, c'est une qualité qui est, je dirais, presque naturelle à des groupes néo-folk comme La Novia, France, Cheval Dance Collective. Et ça, je pense qu'on doit s'en inspirer. Et c'est surtout cette qualité sociale, la qualité sociale qui produit musique. La musique est un fait social. Et bizarrement, aujourd'hui encore, on doit le rappeler. On doit le rappeler dans les facultés de musicologie, on doit le rappeler dans les institutions musicales, les grandes institutions, les opéras, les philharmonies, et sur les ondes également. C'est un fait social et c'est quelque chose qui se partage et ça produit du son, ça produit des esthétiques, ça produit des manières d'être ensemble à l'écoute.
En ouvrant la programmation à d'autres univers musicaux autour de la création, le Festival Musica réussit à attirer de nouveaux publics, notamment les plus jeunes, avec ce chiffre, 25% des spectateurs et spectatrices du festival à moins de 28 ans.
France Musique, Planète Okora, Aliette Delalleux.
Cette émission a été réalisée par Max James, préparée par Maud Nourry à la technique et à la prise de son. Nous avions Jean-Benoît Tétu. On va reprendre un peu de Brésil pour se quitter et se donner rendez-vous samedi prochain à 14h sur France Musique. D'ici là, vous pouvez retrouver Planète Okora en podcast ou à la réécoute sur l'application Radio France. Très bonne journée et pour finir, eh bien, on se quitte avec la voix d'Élis Regina.
Meu coração. Não sei porquê, bate feliz quando te vê. Mesmo assim, foges de mim, meu coração. Como eu sou tão carinhosa e o muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor. Soubesses como eu sou tão carinhosa e o muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor. Matar
bem feliz.
France Musique.